Qu'arrive-t-il, Fangar ? M'écriai-je. Ma fille est... Fangar était un homme hardi, mais rempli de sang-froid, et avec cela, strict sur la discipline. Il avait, une nuit, heurté volontairement sa machine volante à celle d'un de ses subordonnés qui n'exécutait pas suffisamment vite un ordre donné. Les deux engins avaient été précipités sur le sol. Fangar s'en était tiré avec quelques contusions, après avoir risqué la mort pour châtier une désobéissance. Ceci pour expliquer combien il était partisan d'une discipline exacte. Pourtant, il me coupa la parole à moi, le chef suprême de l'armée d'Ixir. « Seigneur Xier, articula-t-il d'une voix haletante, tout à l'heure, dans la crypte, vous ne m'avez pas renseigné sur les concentrations d'obus volants. Vous sembliez distrait, absent. Lim a tout observé. Nous ne l'avons vu qu'ensuite. D'après ce que je sais, vous allez être arrêté pour impéritie et négligence. Groset vient de recevoir l'ordre. Il va être d'ici d'un moment à l'autre. Vous n'avez pas le temps de fuir. Si j'étais surpris ici, mon sort serait scellé. Bon, je ne vous ai rien dit. Adieu. » Et avant que j'aie pu demander d'autres explications, Fangar s'élança au dehors. J'entendis un léger bourdonnement produit par une hélice. Je bondis. J'eus le temps, arrivé devant un des puits d'aération, de voir une ombre monter vertigieusement vers le zénith. Je devinais plutôt que je ne reconnus un des obus volants à bord desquels le chef aériste était venu. Il avait fallu toute son habileté pour pouvoir passer dans le puits sans heurter les innombrables fils conducteurs ainsi que les arbres à cames qui en tapissaient les parois. En quelques pas, je fus de nouveau chez moi. Ma situation, si elle était terrible, avait au moins l'avantage d'être claire. Avec son implacable génie, avec sa science extraordinaire de déduction, Reyr avait deviné les sentiments que je nourrissais pour lui. Il avait, si l'on peut dire, flairé mes projets. Peut-être avait-il surpris, par quel moyen, ma conversation avec Tupaou, son petit-fils. Tout paraissait l'indiquer. Tupaou avait disparu, Silmé aussi, et maintenant j'allais être arrêté. Il fallait fuir, c'était mon devoir, un devoir double. Silmé avait besoin de moi. Et Illa elle-même, que Rer conduisait à sa ruine, ne pouvait être sauvée que par moi, du moins, je le croyais. Fuir. Un seul moyen existait de quitter Illa, s'emparer d'une machine volante et prendre les airs. Entreprise relativement facile. Les gardiens des machines ne pouvaient pas encore connaître les intentions de Rer à mon égard et me laisseraient respectueusement prendre un des engins. Toutes ces réflexions, le devine, je me les étais faites en moins d'une minute. Je m'élançai vers le puits, faisant communiquer ma demeure avec les terrasses. Je ne l'avais pas atteint que je m'arrêtais net en entendant ce sifflement d'un des ascenseurs. Je perçus un léger choc, et presque à la même seconde, Groset, suivi de 6 miliciens, apparut. Tous portaient les vêtements antiradiants faits d'un tissu composé de plomb et d'or. 2 miliciens, debout derrière Groset, tenaient quelque chose dans leurs mains fermées. « C'est Dirxier, fit Groset d'une voix qui me parut mal assurée. « Nous sommes ici par ordre du Grand Conseil. Veuillez nous suivre. »« Vous suivre, mais où ?»« Nous avons ordre de vous assurer de nous. » « Meigneur Xier, ne vous obligez pas à faire usage des bombes radiantes dont nous sommes munis. Nos ordres sont stricts. » Je compris. Ce que les miliciens tenaient dans leurs mains, c'était de petites bombes radiantes qui, en éclatant, donnent naissance à des ondes comparables à celles des rayons X, mais plus courtes et qui ont la propriété de supprimer toute vie sur une certaine étendue. Des ondes si courtes qu'il en tient 17 millions dans un dixième de millimètre. Le moindre geste de résistance et j'étais anéanti. Groset et ses miliciens, grâce à leurs vêtements dont la matière était si serrée que ces ondes ne pouvaient les traverser, ne risquais rien. Je possédais bien un de ces vêtements, mais je n'avais pas pensé à l'endosser, ne pouvant prévoir quelles seraient les armes employées contre moi. Je me raidis et réussis à rester calme. « Je vous suis, » répondis-je à Groset. Celui-ci fit un signe. Prestement, un des miliciens me saisit les mains, cependant qu'un autre s'approchait avec des menottes. Se révolter eût été vain et peu digne de moi. Je me laissais faire. Entouré de mes gardes du corps, je sortis de ma demeure. Moi, Xier, le vainqueur des Nouriens, l'homme que le peuple entier d'Illa avait acclamé, je fus ramené sur les terrasses. Les femmes, les enfants, les hommes et les vieillards me virent passer, enchaînés comme un homme singe qui s'évade des mines. Mais me reconnurent-ils seulement? Je sus bientôt où l'on me menait. En arrivant devant l'ascenseur blindé, celui qui conduisait aux oubliettes, nous y prîmes place avec Groset et les miliciens. Je compris que Groset avait des ordres, que tout avait été arrêté d'avance. À quoi bon me plaindre, à quoi bon demander des explications? Je sentais que tout serait inutile. L'homme singe, chargé de manœuvrer l'ascenseur, pressa une manette avec la main terminant sa jambe gauche. Car les hommes singes, à la suite d'une longue sélection, possédaient quatre mains comme des chimpanzés, ce qui permettait d'obtenir d'eux une plus grande somme de travail. Assis sur une banquette, je regardais la brute. Un grossier caleçon de toile métallique lui saignait les reins et constituait son unique vêtement. Debout, légèrement courbé, il ricanait, une chie gonflant sa joue. Un jus noirâtre suintait entre ses lèvres lipues, et son petit œil gauche dardait une lueur maligne, accentuée encore par le ricanement de sa large bouche. Avec son front bas et aplati, ses oreilles écartées, larges et pointues, les épais poils roux lui recouvrant le corps, il représentait bien la force brutale. Sous la peau grenue de ses longs bras, des bras démesurés, le frémissement des muscles puissants se devinait. Il était plus heureux que moi, celui-là. Il ne connaissait pas, il ne connaîtrait jamais mes angoisses. Ma pauvre Silmée, mais qu'était-elle devenue? L'ascenseur, avec une vertigineuse vitesse, glissa dans une secousse dans le long tube d'acier. Il passa à travers les innombrables étages d'Illa, et finalement s'arrêta net devant une galerie aux murailles lumineuses. Mes gardiens m'entraînèrent. Une porte s'ouvrit devant moi. On me poussa dans l'ouverture. Je trébuchais, cependant que derrière moi le battant se refermait. J'étais dans une des oubliettes d'Illa. Une cellule affectant la forme exacte d'un cylindre, haut de 2,50 m, d'un diamètre d'1,50 m. On ne pouvait s'y tenir que debout ou assis, impossible de s'y étendre. Une lumière violâtre suintait des murailles, du sol et du plafond. Pas d'autre ouverture que la porte, dont le battant se confondait avec la paroi dans laquelle elle était encastrée. Au centre du plafond, une lentille était fixée, large comme une assiette. Elle était entourée de petits trous destinés à permettre à l'air d'arriver. Cette lentille, composée d'un alliage inconnu, dans lequel entrait une assez forte proportion de sélénium, permettait, au moyen d'appareils spéciaux, au grand conseil, de voir tout ce que je faisais. Pas un de mes moindres mouvements ne pouvait échapper à mes bourreaux. Ils avaient tout loisir de surveiller mon agonie. Je m'assieds sur le sol de ma cellule. Je connaissais mon sort, j'étais destiné à périr lentement d'inanition. Les effluves nourriciers des machines à sang n'arrivaient plus à moi qu'en nombre insuffisant, en nombre dosé par la loi de façon à prolonger ma vie autant de jours que le décida le grand conseil, c'est-à-dire rare. Mais je ne pensais pas à cela. Je pensais à ma fille, à Silmé, qui, grièvement blessée, était certainement au pouvoir de Rère. Vivait-elle encore? Je me raidis, je ne voulus pas qu'on m'exige abattu. Combien d'heures passèrent? Oh, je ne pus m'en rendre compte. Seul avec mes pensées, les membres tordus par les crampes, frémissant, fiévreux, inquiet, angoissé, je restais immobile dans le silence absolu. Des murailles, du sol, du plafond, la même lumière d'un rouge violet persistait, une lumière implacable. Il me semblait voir par moments des nuages de sang passer devant mes yeux. Et Silmé, que devenait-elle? La porte de mon cachot, porte invisible, ne devait se rouvrir, je le savais, que lorsque je serais mort, lorsque Rère, rassasié de vengeance, daignerait me laisser périr. Peu à peu, mes angoisses, mes tourments se calmèrent, c'est-à-dire devinrent moins violents. Je compris que je m'affaiblissais. Pourtant, je n'avais pas encore ressenti aucun sentiment de faim. Rère, je le comprenais, avait donné des ordres pour que l'on continuât à me faire parvenir le même nombre d'effluves osmotiques qu'à l'ordinaire. Il voulait prolonger mon supplice. Mais mes tortures morales faisaient leur œuvre. Lentement, je descendais vers la mort. Je somnolais, à demi inconscient, lorsqu'un claquement sec me fit sursauter. J'ouvris les yeux. Je crus rêver. La porte de mon cachot, arrachée de ses gonds, semblait prête à s'écrouler sur moi. Et par l'entrebâillement, entre le battant et le chambranle, Fangar, le chef des aéristes, la face couverte de sang, apparaissait. Machinalement, je levai la tête vers la lentille de sélénium. Elle avait cessé de briller. Le courant dont elle était en quelque sorte imbibée avait dû être coupé. « Venez vite !» souffla Fangar. Je voulus me lever, mais mes jambes, qui depuis des jours et des jours étaient repliées sur elles-mêmes, refusèrent de me porter. J'eus suffisamment de force pour me mettre debout, mais mes jarrets plièrent sous moi. Je retombai. Une angoisse atroce crispa les traits de Fangar. Il franchit le seuil de la cellule, se baissa, et m'ayant saisi par les épaules, me souleva. Vite, il le faut, murmura-t-il, essayez de marcher. Nous avons 2 ou 3 minutes devant nous, et je suis trop faible pour vous porter. J'appelais toutes mes forces à moi. Les dents si serrées qu'elles grincèrent, la sueur aux tempes, tous mes muscles raidirent d'un suprême effort, je réussis à sortir du cylindre de mort et, appuyé sur l'épaule de Fangar, à faire 2 ou 3 pas. Une crampe me saisit, je dus me retenir au bras de mon sauveur, contre lequel je restais flasque et immobile comme une loque. Mais nous sommes perdus si nous restons ici, murmura le chef des aéristes en m'entraînant. Ah, le temps hagard, j'avançais. À chaque pas, mes jarrets pliaient sous mon poids malgré tous mes efforts. Fangar me traînait presque. Nous franchîmes la longue galerie aboutissant au puits de l'ascenseur. L'ascenseur était là, mais en miettes, un amas de plaques de tôle et de cornières, parmi lesquels se distinguait le cadavre écrasé, mutilé, véritable bouillie sanglante de l'homme singe chargé de manœuvrer l'appareil. Venez! Répéta Fangar, dont les dents claquaient. Il savait que, s'il était surpris, il serait soumis à d'atroces supplices. Je ne le pensais pas, lui demander d'explication, et à son exemple, m'agrippai aux débris de l'ascenseur que j'entrepris d'escalader. Ce fut une lutte atroce. 20 fois je trébuchais. Je m'écorchais, me coupais, me meurtris contre les angles du métal et les débris des rivets brisés. Fangar m'aida, bien qu'il eût fort à faire pour se frayer lui-même un passage par cet amas de débris contourné des tordus. Au bout de 2 mètres au-dessus de l'ascenseur, un obus volant était immobile. son hélice ronronnant imperceptiblement. Mais j'étais tellement habitué au silence que je l'entendis avec netteté. « Dépêchons !» me murmura Fangard. Il me saisit la main et m'aida à parvenir sous l'obus volant, dont il escada le rebord en s'aidant d'un des montants de l'ascenseur. Il dut toucher au moteur car il me parut que le rythme de la turbine en ralentit. L'obus volant s'abaissa légèrement, presque jusqu'à toucher les débris de l'ascenseur. Fangeur me tendit la main gauche que je saisis. D'un effort violent, le chef aériste réussit à m'attirer jusqu'à lui. « Dépêchons !» répéta-t-il, comme s'il eût à prononcer que ce mot. J'atteignis l'axe creux de l'hélice au centre de la lentille de métal. Il y avait juste place pour un homme. Nous étions deux. Mais comment parvînmes-nous à tenir dans cet espace mystère? Nous savions tous deux qu'il fallait absolument que nous y tinssions, sinon c'était la mort. Et cela nous suffit. Pressés, tassés l'un contre l'autre, au point que nous ne pouvions faire le moindre mouvement et qu'il m'était très difficile de respirer, nous fûmes enfin installés. Je me trouvais entre les jambes de Fangard qui était presque assis sur moi. Et sous mes reins, je sentais les bombes rangées autour du cône de déchargement et qui ne constituaient pas précisément un confortable coussin. Fangard, qui avait conservé ses bras libres, rabattit difficilement sur sa tête le capot de métal fermant la lentille. Le moteur ronfla sourdement. Avec une effroyable vitesse, l'obus s'éleva. Il monta verticalement dans le puits encombré par les guides et les tiges de commande de l'ascenseur. Il fallut toute l'habileté de Fangard pour que la lentille n'accrochât point. Entre l'obus volant et les parois du puits, c'était à peine s'il y avait un espace de quelques centimètres. Nous nous élevâmes pourtant à plus de 600 km à l'heure. Je n'eus le temps de ne rien voir. Brusquement, nous jaillîmes hors du puits. Je distinguai en un éclair les clartés blêmes qui dans la nuit jaillissaient des puits servant à l'éclairage et au chauffage des maisons d'Illa. Il me sembla reconnaître la pyramide du Grand Conseil. Mais, à la seconde suivante, nous fûmes en plein ciel parmi les nuées. Je haletais, mes jambes, déjà ankylosées par leur longue immobilité dans la cellule, me causaient d'intolérables douleurs. Il me semblait qu'un bourreau me tordait les muscles. Et par suite de ma position, je respirais difficilement. Je savais que je ne devais pas bouger. Le moindre effort de ma part eût risqué de faire un faux mouvement à Fangard et de nous précipiter tous deux sur le sol. Les obus volants, je ne l'ignorais pas, jouissant d'un équilibre très délicat et facile à rompre. Quelques minutes s'écoulèrent. Le moteur ronflait avec régularité. Soudain, je le sentis ralentir. L'obus volant s'inclina brusquement, si brusquement que ma tête heurta avec violence le grillage intérieur qui me séparait de l'axe tournoyant de l'hélice. Je sentis que nous tombions. « Courant coupé !» eut le temps de m'expliquer Fangard. Je compris. Soit que notre fuite eût été découverte, soit pour toute autre cause, les ondes électriques faisant tourner le moteur de l'obus volant venaient d'être arrêtées. Et l'engin, obéissant aux lois de la pesanteur, se rapprochait du sol avec une rapidité vertigineuse. J'attendis la fin. Ma faiblesse et ma désespérance m'avaient fait oublier la surhumaine habileté de Fangard. Le chef aériste connaissait l'atmosphère comme un poisson connaît l'eau. Utilisant alternativement ou simultanément la vitesse acquise qui était en nous et notre vitesse de chute, déplaçant au moment propice notre centre de gravité, il réussit ce qui, pour tout autre que lui, eût été impossible. Il nous fit décrire plusieurs cercles concentriques d'un diamètre de plus en plus court et parvint à prendre contact avec le sol sous un angle très réduit. Malgré cela, le choc fut encore d'une très grande violence. Les parois de la lentille de métal, déformées par la secousse, éclatèrent, mais nous étions indemnes. Fangar, non sans peine, se dégagea et m'aida à sortir de l'appareil. Nos membres étaient tellement ankylosés qu'il dut me soulever comme un enfant et me traîner en quelque sorte hors de l'engin. C'était la nuit. Les étoiles scintillaient dans le ciel noir. Au loin, vers le nord, je distinguais la lueur blafarde qui enveloppait Illa d'une buée lutteuse et la silhouette à la fois massive et aiguë de la pyramide du Grand Conseil. Nous devions être à environ 50 kilomètres de la grande cité, mais encore en dedans des pylônes protecteurs. « Oh, nous ne sommes pas encore sauvés, » dis-je à Fangar. « Mais je vous en remercie pas moins de votre dévouement. Au moins, si je meurs, ce sera l'air libre, et sans avoir à supporter les horribles tourments qui sont ma vie depuis que Grosé est venu me prendre pour m'enfermer dans les oubliettes. Mais Grosé est avec nous. C'est lui qui m'a révélé de vous que vous étiez. Cette nuit, tout à l'heure, profitant de ce que le Grand Conseil était en séance, j'ai pris un obus volant et je me suis laissé tomber dans la cage, conduisant aux oubliettes. Numéro 3. Car vous étiez dans les oubliettes réservées aux criminels qui doivent vivre. Rien devait avoir des raisons de vous ménager. Enfin, avec l'obus volant, j'ai écrasé l'ascenseur et l'homme singe qui le manœuvrait, et grâce à un chalumeau à oxygène, j'ai coupé les gourdes de la porte de votre cachot, voilà tout. Et s'il m'est, ne puis-je m'empêcher de m'exclamer, sans penser à remercier mon sauveur, « Ma fille, en avez-vous des nouvelles ?»« Rien, seigneur Xier. »« Tout pas où ?»« Nul ne sait où il est. »« Mais ne restons pas ici. »« Ne l'ont pas tardé à être recherchés. »« De moment à l'autre vont apparaître d'autres obus volants. »« Dès que Rer aura fait rétablir les ondes, »« il veut nous laisser le temps de nous écraser sur le sol. »« Allez, venez !»« Et où allons-nous » murmurai-je, désemparé. Ben, nous allons essayer de regagner Illa. Nous nous cacherons chez Yul, l'ingénieur chargé de la surveillance des machines à sang. Il est des nôtres. Grosé viendra nous y retrouver aussitôt qu'il le pourra. Je ne répondis pas. Nous nous éloignâmes des débris de l'obus volant. Nous avancions à pas lents, car je pouvais à peine me soutenir et me traînais plutôt que je ne marchais. Sans Fangar, je serais tombé à chaque pas. « Et la guerre contre nous ? » demandai-je. « Les préparatifs continuent. Oh, depuis 15 jours, Rer a pris le pouvoir absolu. 4 membres du Grand Conseil ont été trouvés foudroyés, sans qu'on sache comment. Mais tout le monde a deviné d'où venait le coup. La terreur règne. Personne n'ose bouger. » D'autant plus que tout le monde se sent surveillé par la police de Lim. De moment à l'autre, nous allons fondre sur les nourrions. Mais, interrompis-je, depuis combien de temps suis-je prisonnier ? 7 semaines exactement, seigneur Xier. Je restais sans réponse. 7 semaines, presque 2 mois. Je ne m'étais pas rendu compte de la fuite du temps dans ma cellule. Je n'aurais pas été plus étonné si Fangar m'avait dit 7 ans ou 7 jours. Et Silmé, qu'était-elle devenue pendant ces 7 semaines? Morte ou vivante? Fangar ne savait rien, nul, ne savait rien, nul, sauf Rer. Nous continuâmes d'avancer en silence. Autour de nous, c'étaient des champs de canne à sucre et de maïs. Pas une seule habitation humaine. Nous marchions avec peine. Fangar non seulement devait me soutenir, mais n'étant plus habitué à marcher sur un sol naturel, il peinait visiblement. Ici où nous étions, les effets de la pesanteur se faisaient sentir sans nulle atténuation. « Mais il faut supprimer Rer, » murmurai-je enfin. « Il le faut. Où nous sommes tous perdus et il est perdu avec nous. » Gosé de cet avis, et vous aussi, et vous également. Il y a bien d'autres citoyens qui pensent comme nous, Mais personne n'ose manifester ses sentiments. Chacun craint de ne pas se réveiller le lendemain. Les partisans de Lee Médérère, seuls, haussent la voix et ne trouvent pas de contradicteurs. Mais nous vaincrons, répétai-je. Fangar ne répondit pas. Nous avançâmes. Peu à peu, ma robuste constitution aidant, je sentais mon sang circuler plus activement dans mes veines. Mes jarrets se raffermissaient. Bientôt, aidé d'une canne à sucre que Fangar coupa pour moi, je pus marcher sans m'appuyer sur le chef aériste. Mais brusquement, je perçus de faibles vibrations. Je levai la tête. Une douzaine d'obus volants, divisés en trois groupes, glissaient dans le ciel étoilé. Ils avançaient en traçant des lignes courbes, tantôt paraissant prêts à s'écraser sur le sol, puis se redressant et piquant droit vers le zénith. De la partie inférieure de chacun d'eux, un cône de lumière verte éblouissante jaillissait et formait sur le sol de larges ovales de clarté qui se déplaçaient avec une vitesse vertigineuse. Sans avoir besoin de prononcer un mot, nous nous jetâmes sous les cannes à sucre à travers lesquelles nous marchions. Immobiles, étendus sur le sol, dans les herbes, nous sentîmes se poser sur nous la nappe de lumière. Les aéristes ne nous virent pas. Ils passèrent. Mais à moins d'un kilomètre en avant de nous, un des obus volants descendit et décrivit une courbe hardie qui le fit passer à moins de 15 mètres du sol. Il rasa les cimes des cannes à sucre. Enfin, le dernier des engins volants disparut. Nous nous relevâmes. Heureusement que ce sont des hommes singes qui manœuvrent les obus. Des Iliens nous eussent découverts, murmura Fangar. En tout cas, ils savent maintenant servir admirablement leurs appareils, ces brutes. Ils vont certainement retrouver l'obus volant qui nous a servi à fuir. Pourvu qu'ils ne suivent pas notre piste. Allons, dis-je. Nous avançâmes en silence. Comme moi, Fangar craignait malgré tout que quelque obus volant ne fût monté par un aériste et ne comptât un microphone qui aurait pu enregistrer nos paroles. Ce ne fut qu'après quelques minutes que nous recommençâmes à causer, ou plutôt à échanger quelques courtes phrases sur ce qui passait à Illa. J'appris ainsi que Reyr avait caché mon emprisonnement et que très peu d'Iliens se doutaient de l'imminence de la guerre contre Nour. Reyr, avec son terrible génie, voulait avoir l'avantage de la surprise sur les Nouriens. Jusqu'au matin, nous marchâmes. Au jour, nous nous cachâmes au bord d'une petite rivière parmi les bambous. Quelques noix de coco ramassées dans l'herbe nous soutinrent. Et nous dormîmes chacun à notre tour jusqu'à la nuit. À quoi bon m'étendre sur nos aventures ? Nous réussîmes à surprendre deux des miliciens chargés de la surveillance terrestre des pylônes entourant Illa. Nous les tuâmes, prîmes leurs uniformes, et à la faveur de la nuit, pûmes entrer en ville sans avoir été suspectés ni reconnus. Cela nous fut d'autant plus facile que, depuis plus de 3 ans, la paix régnait à Illa. Les Nouriens, après l'éclatante victoire que j'avais remportée sur eux, entretenaient avec nous d'excellentes relations. Errer avait tout fait pour faire régner, aussi bien Illa que chez les autres nations, l'illusion que nous étions pacifiques. Nous atteignîmes les terrasses vers 11 heures du soir, alors qu'elles étaient à peu près désertes. Un ascenseur nous descendit au-dessous des fondations des maisons à 101 étages, devant une des 3 galeries obliques conduisant aux machines à sang. Les 2 factionnaires qui veillaient devant la porte ne nous reconnurent pas, car nous avions eu soin, à l'aide de fausses barbes et de perruques emportées par Fangar, de changer complètement notre physionomie. « Conduisez-nous immédiatement à l'ingénieur Hull, urgent !» ordonna Fangar à l'un des factionnaires. L'uniforme de milicien dont, comme moi, le chef aériste était revêtu, et surtout le ton impératif avec lequel il parla, convainquirent le factionnaire qui appuya sur un bouton excellant une sonnerie. Nous connaissions, Fangar et moi, ce qui allait se passer. Nous savions qu'un des surveillants techniques des machines allait arriver et nous conduire devant l'ingénieur Hull. Ce fut en effet ce qui advint. Moins de 5 minutes plus tard, après avoir traversé une étroite galerie dont les murailles pouvaient, en cas de péril, se rejoindre instantanément et écraser les imprudents qui s'y seraient trouvés, nous passâmes dans 3 salles différentes, des salles au plancher mobile, s'ouvrant en cas de besoin sur les cuves remplies d'acide rejetées par les machines à sang, et pénétrâmes dans le bureau de l'ingénieur Hull. Une haute crypte d'un diamètre de 4 mètres à peine et dont la voûte était à 10 mètres du plancher. Contre les parois de marbre blanc, des niveaux de cristal étaient fixés, côte à côte avec des ampèremètres et d'autres appareils de mesure. De longues aiguilles, placées dans des cadrans à l'intérieur desquels régnait le vide absolu, tremblotaient précipitamment et incessamment. Elles indiquaient le nombre de vibrations émises par les machines à sang. Dans un long tube vertical en cristal bleuâtre, un étrange fluide d'un rose opalin bouillonnait sans cesse en dégageant une sorte de phosphorescence. Au centre de la crypte, devant une petite table d'ébonite, l'ingénieur Hull, un petit homme chauve, au crâne pointu, au nez écrasé, chaussé de lunettes rondes, était assis et compulsait des papiers. Il leva la tête, nous vit et nous reconnut. D'un geste, il congédia le surveillant qui nous avait accompagnés. Puis, se levant, il alla refermer lui-même la porte de la crypte. Il s'approcha alors d'un des appareils fixés à la paroi et tourna légèrement une manette. Un léger crépitement, semblable à celui que produirait une série de clapets précipitamment ouverts et refermés, retentit. « Ce n'est rien, » expliqua Oula en se tournant vers nous. « Les vibrations sont à zéro, nul ne peut nous entendre. »« J'ai dû abandonner le but volant, » répondit Fangar, « mais nul ne se doute de notre présence à Illa. Les hommes sages envoyés à notre poursuite sont passés au-dessus de nous, sans nous voir. Tout est bien. »« La guerre est déclarée ?» demandai-je à l'ingénieur. « Oui, demain, 700 obus volants vont aller déverser chacun leur bombe asphyxiante sur nous. » Et en même temps, d'autres machines, montées par des aéristes, détruiront une partie de nous en y laissant tomber une parcelle de pierre zéro. C'est Gadul qui conduira l'expédition à la place de Fangar, qui a été mis hors la loi. Et l'armée qui la commande, demandai-je. Vous, seigneur Sier, du moins, Ray n'a pas encore fait connaître ni que vous étiez destitué, ni le nom de votre successeur. « Et Tupaou et ma fille Silmé, avez-vous quelques nouvelles ?»« Aucune. »« Mais ce que je sais, c'est que Rer est plus méfiant que jamais. Il ne communique plus avec le Conseil suprême que par téléphone magnétique. Nul ne peut plus pénétrer dans la pyramide centrale. Et Lim a quadruplé sa police, dont les membres ont reçu des instructions secrètes et implacables. » Oui, Gosé, que j'ai vu ce soir, m'a expliqué que la milice reste à Illa et doit exécuter cette nuit un grand nombre de perquisitions sur les indications de Lim. Même ici, Sianer Oxier, et vous, Fangar, vous n'êtes guère en sûreté. Il se peut que Lim vienne. Mais que faire alors, demandai-je. Ben, je vois qu'on a moyen, si vous consentez à l'employer, Sianer Oxier. Vous cachez dans les étables. J'ai fait pratiquer une sorte de niche il y a 1 an, qui est connue de moi seul. Elle servait à entreposer certaines armes dont je m'étais muni, car à cette époque je croyais être mal en cours auprès de Rère. Bon, il paraît que je m'étais trompé. Depuis d'ailleurs, j'ai imaginé d'autres moyens de défense, et la cachette est vide. Allons, dis-je. Goul eut une petite inclinaison de tête. Il nous regarda tous deux, Fangar et moi, et après un instant de silence, murmura « Venez !» Derrière lui, nous sortîmes du bureau et par un long couloir, arrivâmes devant une porte basse plus large que haute. Goul en ouvrit un des battants. « Il y a 5 marches !» nous prévint-il. À sa suite, nous pénétrâmes dans une immense salle oblongue où régnait une affreuse odeur de sang et d'acide. Une centaine d'hommes singes, revêtus d'un simple caleçon de grosse toile, s'agitaient, sous la direction de contremaîtres illiens, autour de machines compliquées. Des sifflements, des claquements de clapets, des gargouillements, des glougloutements se mêlaient, formant un ensemble assez comparable au bruit de la mer. 4 tuyaux, d'un diamètre d'environ 50 centimètres, étaient posés horizontalement sur des bâtis articulés. Ces tuyaux, à l'extrémité desquels aboutissaient les conduits amenant le sang des abattoirs, étaient animés d'un mouvement spasmodique de déglutition. Ils se contractaient, s'amincissaient, grossissaient, et l'on pouvait deviner, en quelque sorte, comment le sang les emplissant y circulait. À l'extrémité opposée à celle par laquelle entrait le sang, les tuyaux se terminaient par une véritable forêt de conduits capillaires qui se perdaient dans d'énormes boules rouges percées de milliards de petits trous où une aiguille aurait eu de la peine à passer. Ces sphères, qui ressemblaient assez à des blocs d'éponge, étaient animées d'un lent mouvement de rotation. Autour d'elles, des cylindres tournaient en sens inverse en les frôlant. Et des éponges rouges, un liquide semblable à de l'ambre, jaune et épais, coulait doucement et allait tomber sur des disques de verre et de cuivre, tournant à toute vitesse à plus de 20 000 tours à la minute. De chaque côté de chacun de ces disques, des plaques de métal enduites de radium étaient disposées de façon à les soumettre à un véritable bombardement atomique qui désagrégeait les particules de sang et les désintégrait. D'autres machines, composées de longs tubes d'une matière semblable au cristal, captaient les émanations ainsi produites et les envoyaient dans des condenseurs situés à l'étage supérieur d'où elles étaient distribuées aux Iliens au moyen de courants physio-électriques. Les hommes singes, tous des colosses, ce qui se comprenait aisément, car sans s'en douter ils profitaient des effluves des mystérieuses machines, s'agitaient autour des tuyaux, des éponges, des condensateurs, ouvrant des robinets, manipulant des leviers, et tout cela dans un silence presque absolu. Leurs faces racamuses exprimaient une tranquillité bestiale. Je ne se retournais même pas à notre passage. Je m'imaginais les mêmes machines gorgées de sang humain, et un hoquet d'horreur et de dégoût me souleva le cœur. Je regardai l'ingénieur Hull. Il était placide et, comme s'il nous eût oubliés, adressait une observation à un des surveillants techniques. « Attention aux radiations !» l'entendis-je dire. « Les globules se désintègrent trop rapidement, il y a de la perte. Je reverrai vos diagrammes tout à l'heure. » Et sans écouter les explications que l'homme tentait de lui fournir, il passa. Arrivés à l'extrémité de la vaste salle, nous franchîmes une porte et pénétrâmes dans une pièce aux parois de plomb où se tenait une douzaine d'hommes singes sous la direction d'un contremaître. Plusieurs grandes auges parallèles, recouvertes de capots de verre, y tenaient presque toute la place. Ces auges reliaient les abattoirs aux machines à sang. C'était dans ces conduits que passait le sang. Une température de 37,5 degrés y était constamment maintenue au moyen de l'électricité, de façon que le sang conservât sa chaleur naturelle jusqu'à son arrivée dans les machines. Une surveillance de tous les instants était nécessaire pour empêcher le sang de s'échauffer ou de se refroidir. De plus, d'autres courants, dont le réglage était l'œuvre de savants de conseil suprême, parcouraient les auges et empêchaient les globules rouges du sang de perdre leur vitalité. Ils passaient dans les auges, se sent à une vitesse vertigineuse, à la même vitesse que celle dont il était doué lorsqu'il circulait dans les veines et les artères des singes et des porcs auxquels il avait appartenu. Nous passâmes et par un long couloir arrivâmes dans les étables où porcs et singes étaient parqués séparément. Tous étaient en excellent état de santé. Des vétérinaires dosaient leur nourriture, leur boisson, leur repos. Chaque matin et chaque soir, les animaux qui avaient moins de 15 jours à vivre, c'est-à-dire dont le sacrifice était décidé et fixé, étaient soigneusement visités, leur sang analysé. Le nombre de globules rouges qu'ils devaient contenir par centimètre cube était rigoureusement fixé, suivant les saisons, par les physiologistes et les biologistes du Conseil suprême. Nous atteignîmes l'extrémité de l'étable et entrâmes dans une sorte de cellier rempli de fruits, légumes et autres végétaux en conserve destinés à la consommation des animaux. Houle, ayant refermé la porte pour être certain de ne pas être observé, déplaça une armoire et, au moyen d'une brique mobile encastrée dans la corniche, fit pivoter un pan de muraille, découvrant une vaste cavité, ou plutôt une véritable chambre carrée de 3 mètres de côté et de 2 de hauteur, juste de quoi se tenir debout. Mais l'on pouvait s'y étendre, et pour moi, c'était le principal. D'ailleurs, Gauzet doit venir d'un moment à l'autre. Peut-être trouvera-t-il une combinaison pour avancer nos projets. Demain, tout le monde à Illa connaîtra l'état de guerre. Et je pense que Rer en profitera afin d'exciter l'enthousiasme pour annoncer son intervention et faire savoir aux Iliens qu'il ne dépend que d'eux de voir leur résistance prolongée d'un siècle, excepté naturellement ceux qui seront asphyxiés, foudroyés, tués, écrabouillés pendant cette guerre. Mais cela, il n'a nul besoin de le dire, chacun se fera que c'est le voisin qui sera tué. Ha ha! Houle eut un ricanement sarcastique qui me fit froncer les sourcils. Encore un de ces savants confinés dans leur science, dépourvus d'idées générales. Ils ne comprennent pas que toute grande œuvre bonne ou mauvaise exigeait des victimes. Tout en détestant et en exécrant l'infâme règne, je ne l'oubliais pas, moi. Restez donc ici et ne faites pas de bruit, conclut l'ingénieur. Je vous quitte, Roger peut venir d'un moment à l'autre. Et, sans attendre de réponse, il sortit. Le panneau de muraille reprit sa place. Nous étions prisonniers, prisonniers d'un ami, mais prisonniers quand même. En tout cas, comme l'avait dit Houle, nous pouvions nous étendre. Depuis des jours et des jours, j'avais gardé mes jambes repliées. Je me laissais presque tomber sur le dallage et avec délice allongeais mes jambes courbattues. Fangar prit place à mes côtés. Dans les ténèbres, nous causâmes à voix basse. J'exposais mes projets au chef aériste. Quelles que fussent les nouvelles qui allaient nous apporter Grosset, j'étais bien décidé à entraîner et à entamer la lutte contre Rer, et sans attendre. Je sentais mon sang bouillonner à la pensée que le misérable vieillard tenait ma fille en son pouvoir, ou que peut-être il l'avait fait assassiner. Mais la fatigue, l'épuisement sont plus forts que le chagrin et l'inquiétude. Sans m'en rendre compte, je m'endormis. Une forte secousse me réveilla. J'ouvris les yeux, je me dressai. L'ingénieur Houle, accompagné de Grosset, le chef de la milice et du vieux Fougle, membre du Conseil suprême que j'avais vu tenir tête à Rer, était devant moi. « Levez-vous vite !» s'écria Grosset. C'était lui qui venait de me secouer. « Rer veut vous voir !» Rer ? M'écriai-je, stupéfait et me croyant trahi. C'est une plaisanterie, je pense. Non, intervint le vieux Fougue. Rien vous fait rechercher. Oh, mais ce n'est pas pour vous faire du mal. Il, vous savez, le chef des appareils électriques. Oui. Bien, il a déserté. Il s'est emparé d'un obus volant et s'est rendu à Nours. Il apporte un fragment de pierre zéro qu'il a réussi à se procurer. Il préparait son coup depuis longtemps. Cette nuit, il a interrompu tous les courants, brouillé toutes les vibrations. Il a coupé et ouvert le porte-triple du caveau où est enfermée la pierre zéro. C'est Yeluk qui s'en est aperçu. Il manque près d'un kilo de pierre zéro. Oh, de quoi détruire il l'a. Et il est au courant de nos dessins sur les Nouriens. Il connaît l'invention de Reir. Il ne manquera pas d'enlever le Nourien que nous comptons les obliger à nous livrer plusieurs milliers de leurs pour être sacrifiés. Où le sait comment ? Ce moment, Houl fit un petit geste de la tête. Et Ilg connaît le maniement de la pierre zéro ? Demandai-je. Non, certainement non, assura le vieux Fougue. Seul Reir connaît le nombre exact des calories nécessaires à désintégrer la pierre zéro et à produire la dissociation de la matière environnante, mais avec des expériences, des recherches, les Nouriens trouveront. Oui, je comprends, murmurai-je, mais que puis-je à cela et que me veut Reir? Bien que vous preniez le commandement de l'armée et dirigiez les opérations, lesquelles devront être aussi rapides que possible afin de ne pas laisser aux Nouriens le temps de découvrir le secret de la pierre zéro. Je ne répondis pas. Successivement, je regardais les hommes qui m'entouraient. Je pouvais me fier au vieux Fougue, à Cosé, à Houl. Houl m'avait caché. Gosé avait aidé Fangar à me faire évader. Et puis, si ces hommes eussent voulu me trahir, ils n'auraient eu qu'à révéler ma cachette à Reir, qui m'aurait facilement fait arrêter pendant mon sommeil. Je suis prêt à tout pour ma patrie, dis-je. Mais il est entendu que Fangar, ici présent, ne pourra en rien être inquiété par ses actes et restera à ma disposition. Il... Que Xier se présente à moi. Je suis prêt à lui accorder tout ce qu'il demandera, à moins qu'il ne se rende compte lui-même que c'est impossible, a dit Reir. Et je le crois sincère. Oh, Reir est sincère quand son intérêt le veut, répondis-je. Quoi qu'il en soit, je suis prêt à me rendre chez lui. Je vais vous guider, dit Fougue, afin que l'on puisse savoir d'où vous venez. Fangar viendra avec moi, comme vous voudrez. Suivez-moi, le temps presse, conclut le vieillard. Je regardais Fangar, ou les Grosé, et compris qu'ils étaient complètement d'accord avec Fougue. Je m'inclinai et pris le bras de Fangar. Guidé par Fougue, qui connaissait les moindres détails des infrastructures d'Illa, nous franchîmes d'innombrables couloirs, nous passâmes à travers les anciennes mines de métal, par excellence, aujourd'hui abandonnées parce qu'épuisées, et finalement nous débouchâmes sur les terrasses. Lim, debout, à quelques pas du puits contenant l'ascenseur qui venait de nous y amener, s'inclina en ricanant devant nous. « C'est probablement pas la peine, seigneur Fougue, de vous fatiguer ainsi à excursionner dans les souterrains d'Illa avec le seigneur Xier, » dit-il d'un ton à la fois moqueur et respectueux. « Cela vous a fait perdre du temps et obligé le grand Reir à attendre. Vous venez des étables et vous n'avez vraiment pas pris le chemin le plus court. » Si c'est une leçon, maître Lim, gardez-la pour d'autres. Nous n'avons que faire de vos phrases. Si le grand rire vous a ordonné de nous épier, nous le saurons. Sinon, nous demanderons un châtiment pour vos actes. Inutile de nous accompagner. Lim, tranquillement, s'inclina. Il avait écouté sans broncher la diatribe du vieux fougue. Il resta immobile, cependant, que par les terrasses, nous nous dirigions vers la pyramide du Grand Conseil. Il pouvait être midi. Les terrasses étaient désertes. De loin en loin, de larges coupoles de métal les bossuaient. Elles venaient d'être mises en place pour abriter des bombes aériennes, les miroirs paraboliques chargés de capter chaleur et lumière solaire et de les envoyer au condensateur. Nous pénétrâmes dans la pyramide. Je remarquai que la garde d'hommes sages avait été au moins doublée. Arrivés au-dessus de la salle du Grand Conseil, nous pénétrâmes dans une chambre affectant la forme d'un cylindre haut de 7 mètres et d'un diamètre de 2 à peine. Les deux policiers qui nous avaient guidés se retirèrent cependant que la porte du cylindre se refermait derrière eux. Nous n'étions pas prisonniers, car la moitié du plafond, un demi-cercle, descendit lentement vers nous. Nous n'eûmes que le temps de reculer sous la partie immobile. Le demi-cercle, doucement, se posa sur le plancher. C'était une plateforme sur laquelle nous prîmes place. À peine y étions-nous installés qu'elle commença à s'élever. Lorsqu'elle s'arrêta, nous nous trouvâmes au centre d'une petite crypte aux parois de métal lumineux et dans laquelle 4 hommes singes, armés de bombes foudroyantes, se tenaient. Ils avaient des ordres. L'un d'eux appuya sur un bouton de métal encastré dans la paroi. Une porte s'ouvrit. Nous la franchîmes, traversâmes une petite antichambre vide, vîmes une autre porte s'entr'ouvrir devant nous et arrivâmes enfin dans le cabinet de Rère. C'était la première fois que je pénétrais dans le cabinet de travail du maître d'Illa. Je me sentais plus ma fatigue, d'abord parce que je m'étais reposé, et aussi parce que, grâce aux planchers animateurs de la pesanteur, je n'avais eu que peu d'efforts à déployer pour marcher. Sans bruit, la porte s'était refermée derrière nous. Nous étions seuls avec Rère dans une sorte de casemate sans fenêtre, uniquement éclairée par des radiations de lumière froide émanant des murailles. Rère était assis dans un petit fauteuil de métal devant son bureau. Derrière lui, sur des rayons de pierre dure, d'innombrables dossiers reposaient. À ses côtés, sous des abris de cristal, de nombreux appareils enregistreurs étaient fixés. Grâce à eux, Rère pourrait entendre ou voir ce qui se disait ou ce qui se passait dans une partie quelconque d'Illa, que ce fût dans les mines de métal par excellence, dans les habitations ou dans les salles des machines à sang. Des cadences d'enregistreurs placés derrière lui le renseignaient sur le fonctionnement des innombrables machines assurant la vie à Illa et aux Iliens, que ce fussent des machines à sang ou les moteurs à radium. Sans bouger, il savait tout, était au courant de tout. Raï nous regarda longuement, Frangard et moi. Je n'aime pas les traîtres, dit-il à Frangard. Ne répondez pas. Vous étiez l'ami de Xier, mais vous étiez le chef des Aïris d'Illa, et ceci passait avant cela. Passons. J'ai besoin de Xier. Il a besoin de Xier. Faut que vous soyez au courant, je présume. Très bien. Il a peut-être compté sur vous, Xier. Un danger mortel la menace. Causé par vous, ne puis-je m'empêcher de rétorquer. Brain fronça imperceptiblement ses sourcils gris et touffus. Nous ne sommes pas ici pour régler nos affaires, ni exprimer nos sentiments et nos opinions. Il a besoin de tous ses enfants, et j'ai songé à vous, Xier. Voilà le fait, répondez. Je me tiens à la disposition de ma patrie. Alors, je ne vous demande que cela. Votre fille est vivante. Elle va vous être rendue. Elle est guérie et épousera Tupaou, mon petit-fils, dès la fin victorieuse des hostilités. Ainsi, vous aurez l'esprit libre. Sans paraître voir mon émotion, R se retourna et fit pivoter un des rayons sur lesquels étaient entassés les dossiers. En se retirant, le meuble démasqua une porte, celle-ci s'ouvrit, Silmé se jeta dans mes bras. Rer avait dit vrai. Ma fille adorée était guérie, mais le cerne de ses yeux, la pâleur de ses joues disaient assez les épouvantables angoisses qui avaient été les siennes. Tupaou se tenait derrière elle, un sourire un peu mélancolique aux lèvres. « Pas de scène de famille ici, Xier. Envoyez vos enfants chez vous. Vous les verrez tout à l'heure et convenons de plan de campagne. Les minutes qui s'écoulent valent des siècles. » Malgré moi, j'admirais le sang-froid de Rer. Sans réponse, je serrai perdument mon enfant contre ma poitrine. Enfin, Silmé et Tupaou sortirent. Êtes-vous calmé et pouvez-vous commencer la discussion ? Me demanda Rer. Oui, je pense. Très bien. Fangar, sortez, je vous ferai revenir au moment venu. Fung, je regrette, mais il me faut être seul pour causer avec Xier. Les deux interpellés, sans mot dire, passèrent la porte qui s'était automatiquement ouverte devant eux. 2 heures durant, nous conversâmes, Rer et moi. Je ne peux dénier à cet infâme une clairvoyance et une lucidité dignes de l'enfer. Je lui soumis mes plans, il me fit des objections, la plupart justes. Il m'indiqua des modifications opportunes. Finalement, nous tombâmes d'accord. Fangar et Fouque furent appelés. Rer leur exposa nos décisions, mais sans entrer dans les détails et en cachant certains projets dont nous attendions merveille. Je me retirai peu après afin de tout faire préparer pour une offensive foudroyante. Dans les couloirs de la pyramide, je rencontrai Lim. L'espion de Rer me salua humblement. Il me sembla qu'il me lançait un regard moqueur. Pendant tout le reste de la journée, je me multipliais sans avoir un seul instant pour voir ma fille. En compagnie de Fangar, je fis monter les obus volants sur les terrasses cachées sous des tentes. L'ingénieur Hull, conformément aux ordres de Rer, mit en marche les deux machines à sang de réserve de façon à suralimenter les guerriers d'Illa. Les tablettes d'air respirable solidifiées furent placées dans les bouilloires de façon que toutes les ouvertures puissent être bouchées sans que pour cela les habitants d'Illa enfermés dans les étages souterrains en souffrissent. les grandes machines volantes, qui ne devaient agir qu'après le premier effet de surprise obtenu par les obus volants, furent apprêtées. Et je pus enfin rejoindre Silmé. Oh, je ne devais pas rester longtemps avec elle.